Albella, ouvert le samedi.
On est dans le trafic avec Joël Lightbound, député fédéral dans Louis-Hébert pour le Parti libéral du Canada. Bonjour Joël.
Bonjour, ça va bien?
Vous allez bien?
Yes, très bien.
Je présente l'équipe ici, Julie, Paul, Vez.
Content d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation.
Ben, c'est grand plaisir, on invite les gens qui acceptent l'invitation et c'est le cas, donc très heureux de faire votre rencontre. On se connaissait pas, hein?
Non,
on s'était jamais croisé ni rien.
Non, mais je vous connaissais de réputation.
Ah, tu vois, bon déjà.
Testostérone!
Exactement, poser des mines. Là, c'est,
ah, mon Dieu! Joël Lightbound. Très fort. Déjà des points.
Déjà des points.
C'est incroyable. Joël, je vais vous demander de faire comme on fait souvent ça. Ben, on le fait tout le temps avec chaque invité. C'est de décrire votre parcours, mais avec le pourquoi. C'est-à-dire de commencer où vous voulez, de finir aujourd'hui. Mais pas juste de faire le CV, genre comme on le voit de l'extérieur, mais pourquoi vous avez choisi d'étudier en telle matière? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça a toujours été des choix? Des fois, ça a été des accidents de parcours, etc.
OK. C'est rare que je me retrouve à la radio pour parler de ce genre parler de moi autant
on
parle de politique. Normalement,
c'est ça. Mais là, il n'y aura pas aucune question politique.
Aucune question politique. Bon, ça marche. Je suis sûr qu'ils vont venir quand même. Là.
D'accord.
On fait des efforts pour que ce soit
non. Il y a un moratoire.
Vous n'allez pas sortir M. Duhem d'un placard qui part, d'un chapeau. OK, c'est bon.
Il revient, il fait ses entrevues, mais ici, à ce moment-là, ils sont conduits différemment.
Ben, pour faire une longue histoire courte, moi, j'ai été, conçu et livré à Toronto. C'est de là que me vient mon nom de famille. Là. Livré, je suis sûr, conçu, je veux pas trop savoir, mais c'est de là que je viens.
Okay.
Mon père est anglophone, vient de Toronto, et à 6 mois, je suis arrivé avec ma mère ici à Québec, avec ma mère et mon frère. Puis j'ai été élevé à Sainte-Foy. Donc, tu sais, il y a beaucoup de monde en politique qui me demande un francophone québécois, mais avec un nom comme Lightbound, ça sort de où? Mais ma mère, c'est une l'évêque du bas du fleuve, puis c'est avec elle que j'ai été élevé.
Ah.
Donc, c'est de là que ça vient. Et gars de Sainte-Foy, j'ai étudié dans la paroisse Sainte-Ursule à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Rochebelle, ensuite le cégep Saint-Lawrence pour aller apprendre mon anglais. C'était pas ma langue maternelle. Et ensuite, j'ai fait mon droit à McGill. Et,
pourquoi pas à l'Université Laval?
Je pense que j'avais, à 19 ans, j'avais comme envie de partir de Québec.
Okay.
C'est ma ville, j'adore Québec, mais j'avais envie d'aller voir ailleurs, j'avais envie de vivre la vie de métropole. McGill aussi offrait un programme qui est comme droit civil, common law, donc tu peux pratiquer un peu partout.
Mais là, vous êtes arrivé à 6 mois, est-ce que ça veut dire que vous étiez quand même totalement bilingue de par le côté...
Non, ça se transmet pas de même, une langue.
Non, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, vous êtes quelqu'un qui vient de Toronto, donc... C'est certain que vos parents étaient bilingues, minimalement.
Ouais, mais disons que, mettons, les contacts avec mon père, c'est venu pas mal plus tard dans ma vie. C'est avec ma mère, qui est une grande fan de Oprah Winfrey, Dr. Phil. Tu sais, écoutait beaucoup de ça. C'est comme ça que j'apprenais un peu mon anglais. Puis après, quand j'ai commencé à aller passer quelques temps à Toronto, dans ma famille, du côté de mon père, là, j'ai appris mon anglais un peu plus.
Mais sauf qu'à McGill, ça se passe en anglais.
Mais c'est ça. C'est vraiment au cégep à Saint-Lawrence, ici à Québec, et ensuite à McGill, que mon anglais s'est amélioré au point où, là, maintenant, je pense être bilingue. Là.
Okay.
Même si des fois, j'ai de la misère sur certains mots en anglais encore. Mm-hmm. Là.
Okay.
Dont un mot que j'ai à dire souvent, mais government, j'ai toujours de la misère à prononcer en anglais. Government, c'est un peu maudit. mais puis même des fois, quand j'étais plus jeune, mon propre nom de famille, j'avais un petit peu de misère à le prononcer.
Lightbound,
il a été maltraité. Lightbright, Lichtbun,
tout ce qu'on peut. C'est un jeu de lumière.
On a d'ailleurs fait le gag tout l'après-midi dans le bureau.
Sérieux?
Lightbright, c'est un jeu de lumière.
Ça va bien les deux ensemble?
C'est bon, j'aime ça. Mais puis même que d'ailleurs, quand j'ai décidé de me présenter, il y a un monsieur, j'étais même pas candidat officiel du parti, mais il me dit: ah, un nom comme Lightbound, devrait peut-être prendre le nom de votre mère, l'évêque, ça passerait mieux à Québec. Tu sais, j'étais comme, si je pour changer de nom pour me lancer en politique tout de suite, là, vous voulez pas savoir ce que je vais être comme politicien.
On peut pas.
C'est que ça pour dire que McGill, ça m'a permis d'apprendre le droit civil, la common law, passer le barreau du Québec et le barreau de New York, travailler un peu à Montréal.
New York,
où c'était, je me disais à l'époque, je pensais me lancer en politique un jour, ça c'était clair, mais je pensais pas que ça allait venir si tôt que ça dans ma vie. Et j'ai 31 ans, j'ai été élu à 27. Donc l'idée pour moi, c'était de, c'est jeune, mais il y a plus jeune. Dans la vague orange, il y en a qui sont passés.
Ah ouais?
C'est weird.
Ben, 27 ans.
Non, mais c'est oui, pas pour vous,
ben
pour
oui,
moi.
Ben c'est ça, t'as pas.
Ah, okay, bon, c'est ça, mais
quel mauvais député je ferais.
Paul fait de la projection, fait qu'il s'est vu, lui, assis sur les banquettes.
Paul, même dans 30 ans, tu ferais pas les bons députés.
C'est ça.
C'est blessant, même.
Je rentre pas là-dedans.
Non.
Mais donc, le barreau de New York, c'était l'idée, c'était hors politique. Là. À l'époque, c'est une carrière d'avocat que je planifiais. C'était de me donner le plus de possibilités d'aller travailler à l'étranger s'il y a des opportunités.
Mais puis ça se fait comment, le barreau de New York?
C'est assez simple. Une fois que tu as ta common law, contrairement à ce que McGill te donne, contrairement au barreau du Québec où il faut que tu fasses l'école du barreau, tu payes l'examen, ça coûte une fortune. Le barreau de New York, c'est la mentalité beaucoup plus américaine. Tu achètes ton billet pour passer l'examen, puis si tu le passes, t'es avocat dans l'État de New York. Il n'y a pas de cours à suivre. Il faut que tu ailles ta common law d'une université qui est reconnue. Mais aucun cours. Moi, j'ai acheté des livres usagés d'une amie. Ça m'a coûté genre 200-300$. Acheter mon billet pour passer l'examen. Puis, tu sais, quand t'arrives là-bas, moi, c'était à Albany, dans l'État de New York. Tous les Américains qui ont passé leur droit là, convergent. Il y en a beaucoup, beaucoup qui convergent vers New York. Des Européens, des Asiatiques aussi, qui viennent pour avoir le barreau de cet État-là, qui est reconnu mondialement, qui gouverne les affaires beaucoup au niveau des entreprises. C'est de se trouver un hôtel durant les deux fins de semaine, une en février, une en juillet, où le barreau de New York se donne. C'est pratiquement mission impossible. Là. C'est comme, je pense, Bethlehem quand Jésus est né, là, si je ne me trompe pas. Là, moi, je me suis retrouvé dans un Super 8, parce que je suis un peu dernière minute comme personne, donc dans un petit hôtel motel complètement avec les lits, tu mets des 25 cents dedans pour que ça shake et tout là. Puis je fais comme, je m'en vais passer le barreau de l'État de New York, je suis dans cette chambre fumeur, deux leaking. C'était un petit peu bizarre, mais c'est un peu comme ça que ça se fait. L'examen est super stressant, tu le passes, puis t'es admis au barreau de l'État de New York.
Bon, donc, mais une fois que c'est fait, y a-tu des ententes entre les deux barreaux que j'ignore qui permettent de pratiquer à New York?
Ben,
parce que là, il n'y a pas de green card impliqué encore, il n'y a rien de
Non, mais c'est ça. Si je voulais travailler aux États-Unis, ça serait, y aurait tout le processus pour être éligible à travailler. Mais d'un point de vue de la profession juridique, je serais correct. J'ai les titres en mais c'est pas mon intention. Ultimement, à quoi ça m'a servi? Parce que j'ai pratiqué à Montréal puis à Québec. C'est des connaissances de plus. C'est une façon de voir le droit aussi qui est complètement différente de celle au Québec. Ben, c'est pas complètement différente, mais qui est assez différent, donc c'est une autre perspective, mais ça ne m'a pas servi professionnellement.
Oui, non, je comprends. Là. Donc là, on est rendu barreau de New York.
Ouais.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
Je devais avoir 23 ans à peu près, oui. Ouais. Puis barreau du Québec, puis là, j'ai fait mon stage à Montréal, et vers la fin de 2013, j'étais chez Fasken Martineau, je me suis dit, c'est comme il m'est apparu clairement, que je voulais faire partie du prochain chapitre dans l'histoire politique, là, comme qu'on allait tourner la page à Stephen Harper, que ça allait être un nouveau gouvernement, puis mes convictions m'y appelaient. J'avais le sentiment de vouloir être dans l'action plus que sur le sideline.
Vous n'avez pas perdu une minute aux études, par exemple? Je constate qu'il y a des gens comme moi pour qui le cégep, ça a été 7 années d'horreur.
T'as fait un bac en cégep, toi?
Ouais, c'est ça. Mais non, mais...
Ben là, un doc rendu là en 7 ans. Là,
un doctorat en cégep.
Mais, un bac en cégep.
Mais ouais. Non, mais à part les blagues, il n'y a pas eu une année de OK, j'arrête tout, je pars en voyage, à l'aventure... Toujours aux études, très assidûment jusqu'à l'élection.
Paul fait encore de la projection.
Ouais, non, mais c'est ça. Puis moi, en même temps, il me plonge dans un monde de regrets. Tous ces voyages que j'ai pas fait, c'est que...
Il est trop tard,
c'est ça. Mais
23 ans, 24 ans déjà, barreau de New York, ça
a... Ouais, c'est parce que vous avez tout fait en ligne. Là,
mais
ça
oui, puis non. Tu sais, le cégep, au début, j'avais pris profil à faire avec maths. Puis après un mois de maths, j'ai fait, ça suffit, c'est pas pour moi. J'étais parti là, quand on distribuait ces tâches. Là.
OK. Ouais.
Et donc, puis après, j'ai fait mon cégep en 5 sessions. J'ai pris une session off après. C'était plutôt, tu sais, je m'impliquais beaucoup au cégep, là, à l'extérieur des cours, politique étudiante, ce genre de choses-là.
Déjà, ouais.
Déjà. Mais, puis de l'impro, si j'aimais bien ça, faire de l'impro. Mais après, j'ai été agent de bord pendant 8 mois.
Ah ouais? OK,
il est là, le voyage, c'est ça. Puis, tu sais, je n'étais pas planifié. Je sais qu'Air Canada venait à Québec faire des entrevues. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est mieux que... À l'époque, c'était mieux que ce que je faisais à l'époque. Là. Donc, ça me semblait être une belle opportunité. Puis j'ai fait ça pendant 8 mois. Donc, toute la chorégraphie là, avant les vols, je la connais. Puis je pourrais
ah ouais, oui.
Les gens la verront pas.
À votre droite, à votre gauche.
C'est ça, ouais, exact.
Mais est-ce que vous venez d'une famille ou d'un environnement politisé? Parce que la politique, c'est moins attirant que ça l'a déjà été.
Oui, en effet, c'est moins attirant. Puis je viens aucunement d'une famille politique. D'ailleurs, ma mère... Pour moi, c'est un petit peu une malédiction d'avoir aimé la politique si jeune. C'était clair assez tôt que c'est vers ça que je me dirigeais. Mais c'est par exemple, ma mère dit à moi et mon frère, quand on était jeune, s'il y a deux choses que je vous souhaite pas dans la vie, c'est soit être politicien ou juge. Puis elle est bien spirituelle. Plus jeune, on faisait des cours d'ouverture des chakras, puis tout ça, puis de lecture de l'aura, tout le kit. Donc, pour elle, c'est comme juge, c'est très dur de juger des autres tant que t'as pas marché dans leurs souliers. Ça doit être une job très ingrate. Ouais. Et politique, ben c'est une job assez ingrate. Donc, tu sais, à la base. Mais pour moi, c'était je sais pas, c'était clair assez jeune que c'est.
Mais comment vous lui avez annoncé ça?
Je pense
parce que
j'ai pas eu
arriver avec la par la porte d'en arrière. Là,
non,
elle
mais
a vu la face à la pancarte, elle a fait hip, elle a.
Ouais, c'est ça.
Je le connais, lui. Puis il était là au réveillon.
Après, ouais, c'est ça. J'essaye encore de gagner son vote. Là. Ça va. Oui. Autre histoire. Mais non, tu sais, elle savait. J'ai pas eu à lui annoncer. Elle savait depuis toujours. Tu sais, j'étais président de ma classe. En première année, au primaire.
Toujours dans l'organisation des choses.
Ouais, exactement. Tu sais, j'aimais m'occuper des affaires de ma communauté, si on veut. Puis, tu sais, de la société. Pour moi, il y a rien de plus. Donc grisant que la politique, tu t'intéresses un peu comme on le fait, comme les gens le font à la radio ou dans les médias, tu t'intéresses aux affaires de la cité. Puis la politique, c'est ça, mais à plus petite échelle, à l'école, c'était la même chose. C'était comme la kermesse, ou c'était un de mes combats, ça avait été au primaire que le drapeau du Québec flotte devant notre école parce qu'il était en lambeaux. Puis je me disais, on peut avoir un peu de fierté, là, un drapeau en lambeaux, là, comme ça n'a pas de sens. Là.
OK, c'est que c'est des intérêts qui venaient
des petites choses
de quand même loin. Ouais. Quand on arrive à Ottawa au début, là, c'est quoi les premières surprises au plan personnel? Mais quand je dis personnel, ça peut être dans le cadre professionnel, mais c'est quoi les réflexions puis les nouveautés de dire, bon, attends un peu, là, moi j'arrive, je suis député, il y a des bancs en bois, il y a du monde que je connais pas, tu sais. C'est quoi les premières constatations les plus surprenantes, là, même si c'est banal?
Ben, deux choses. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé à Ottawa, c'est à quel point ça ressemble à une rentrée scolaire. T'sais, après l'élection, là, surtout la dernière, il y avait, je pense, 180 nouveaux députés. En tout cas, il y en avait beaucoup. C'est la cohorte où il y a le plus de nouveaux députés d'élus. Là, tu arrives, tu as la carte, les petits bus, t'as des séances d'orientation. Ça ressemble vraiment à une espèce de rentrée scolaire. Puis en plus, les édifices ressemblent à Poudlard, là, dans Harry Potter ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était comme bon. Mais je m'y attendais un peu. Mais ce qui m'a, d'un point de vue personnel, c'était plus... t'arrives en chambre, je me souviens, j'étais complètement derrière les rideaux. Complètement dans le fond, près des rideaux. Puis tu découvres toutes sortes de collègues que tu connais pas. Moi, je connaissais M. Duclos, avec qui j'ai fait campagne à Québec, quelques-uns du Québec. Mais après, les 184 autres députés ou 123 autres députés
libéraux... C'est des inconnus purs.
Pas mal des inconnus. Ouais. À part pour certains du Québec, mais pour le reste, c'est des inconnus. Et là, tu vois... après que la formation du Conseil des ministres est faite, qu'on commence à siéger, c'est en décembre 2015, que tu as toutes les games qui commencent à se faire. Tu en as qui veulent essayer de plaire au premier ministre, plaire à un ministre, qui vont commencer à jouer la game comme ils pensent, ouais, un peu comme ils pensent à faire. Puis moi, c'est pas trop mon genre, puis je savais pas exactement comment me placer à travers tout ça, puis je connaissais pas tant de monde. C'est que je me suis dit, après y avoir réfléchi durant les fêtes à ce moment-là, Joël, t'as pas à te stresser là, à aller parler à telle ou telle personne. Juste fais bien les choses que tu dois faire, puis essaye d'être le plus agréable. Ça va bien aller. Puis ça a été un petit peu mon attitude dans la vie. Prends-toi pas trop au sérieux, prends ce que tu fais au sérieux. Puis ça a fonctionné pour moi, je pense, assez bien à Ottawa. J'ai eu quelques promotions, puis je suis plus complètement dans le fond. Là, donc,
Alors, si au début, ça a l'air d'une rentrée scolaire, c'est qui le bum au rack à Bessic?
Le bum au rack à Bessic?
Bonne question.
Là,
c'est qui l'équivalent?
C'est sûr, c'est un conservateur. Là, okay. Franchement.
Non, mais
c'est qui lance des petites boulettes de papier sur le professeur?
C'est pas moi, ça, par exemple. Non. Je vais être ben honnête. Mais c'est pas moi quand tu me fâches des fois.
Est-ce qu'il y a des personnages aussi? T'sais, parce que nous autres, on voit, mettons, là, TV, ouais, là, ouais. Tout le monde est à peu près dans le même moule. Puis, les personnalités ressortent pas tant que ça parce que l'occasion s'y prête pas. Mais, ouais, mais ouais. Par définition, vous êtes tous différents.
C'est sûr.
Y a-tu des personnages?
Ben,
un
c'est
peu,
sûr. T'en as qui sont plus enflammés, qui font qui commentent la période des questions là, au fur et à mesure. Puis des fois, c'est vraiment drôle. Des fois, j'aimerais ça que, à la période des questions, je pense que ça rendrait beaucoup plus intéressante s'il y avait des. J'ai pas le mot en français, mais des reaction shots. Que
oui.
Tu vois la personne dont on parle en même temps.
Comme un humoriste qui fait un gala, puis tout à coup, tu vois la foule qui rit.
Ouais, exactement. Et ça, je trouve, ça se fait ailleurs. Ça se fait en Angleterre. Je trouve que ça rajouterait un peu de piquant. Ça montrait un petit peu plus l'ambiance à l'intérieur de la chambre. Mais sinon, qui est plus... Qui est le bum, là? Je pense... Il y en a trop.
C'est qui le clown? Est-ce qu'entre vous autres, je sais qu'on ne devait pas parler de politique, là, mais est-ce qu'entre libéraux, des fois, vous vous faites des jokes de Jacques Gourde?
Ah, c'est sûr.
C'est
sûr.
Le député qui fait comme...
Les Canadiens
ah, veulent savoir!
C'est du Bloc, ça? C'est un gars du Bloc?
Non, c'est un conservateur de
Rive-Sud, là.
Lobinière, je pense. Okay.
T'écoutes pas Infoman.
Ouais,
c'est ça. Il avait tout démontré à Infoman comment il fonctionnait, comment il écrivait ses discours.
Ah, ouais,
là,
ouais,
puis,
ouais.
Ouais, ouais.
Ça, il y a ça, des jokes de Jacques.
Mais c'est sûr, mais tu sais, Jacques Gourde, puis il y a beaucoup de camaraderie aussi, puis de collégialité. Par exemple, Gérard Deltel, tu sais, on s'enflamme, puis il est responsable de dossiers finances. Moi, je suis secrétaire parlementaire aux finances, c'est que souvent, quand le ministre est pas là, tu sais, on se lance la balle, lui et moi, puis tu sais, même si ça peut devenir très partisan sur le coup, après, on est quand même amis. Je sais pas qu'on est amis, mais je le respecte.
C'est convivial. Non,
c'est convivial. Ouais, on va se faire des jokes l'un et l'autre. Mais Jacques Gourde, pour répondre à la question...
C'est parce que c'est un personnage.
Dès qu'on sait qu'il se lève, on est comme... Il y en a plusieurs du côté libéral, puis on l'applaudit bien souvent. Là, quand ils sont bonnes, là, c'est du grand art.
Ah oui, qu'est-ce qui va sortir ce coup-là?
C'est quoi la différence de temps entre le temps passé ici puis le temps passé à Ottawa, en session?
C'est sûr que Ottawa absorbe énormément du temps parce que contrairement à Québec siège du mardi au jeudi. Nous, c'est du lundi au vendredi, puis ça fait depuis 2017, je suis secrétaire parlementaire à Ottawa, il y a une période des questions le vendredi, même s'il y a à peu près le tiers des députés en chambre. Là. Pour moi, ça devrait être aboli les vendredis, mais il y a quand même une période des questions, il faut que tu sois là pour répondre. Quand tu es secrétaire parlementaire, tu réponds à place des ministres, les ministres sont rarement là le vendredi. Okay. C'est que pour moi, depuis 2 ans, mais c'est vraiment du lundi au vendredi à Ottawa, puis le vendredi soir, je reviens à Québec.
Ah oui?
Samedi, dimanche.
En auto?
En auto, la plupart du temps, oui. C'est comme plus...
C'est combien de temps? C'est
5 heures.
5 heures, quand même?
Oui, 5 heures. Mais tu sais, des fois, je le fais en avion, des fois, je le fais en train. Mais c'est sûr que ça, c'est comme le sacrifice le plus... ou la demande, l'exigence la plus... que j'avais pas anticipé être aussi pénible de cette job-là. Puis avant d'être secrétaire parlementaire, c'est plus lundi au jeudi, de temps en temps un vendredi. Mm. Mais quand c'est systématiquement, moi, c'est pas si pire, c'est 5 heures de route, mais j'ai des collègues en Nouvelle-Écosse ou dans l'Ouest qui ont des jeunes enfants à la maison, puis je veux dire, pour les couples, c'est vraiment pas simple. Pour les familles, c'est pas simple.
Non, mais ils peuvent faire combien d'heures d'auto, hein?
Ah, mais eux, ils font en avion, là. Mais, okay, mais c'est que l'avion, dans des coins de même, c'est pas toujours, tu sais, mais
c'est quand ça donne.
Le vendredi, il arrive chez lui vers minuit. Après, il y a une heure de route sur une route sombre où il y a des orignaux. Puis ça, c'est quand ça va bien, là. Parce que les vols, on sait ce qui se passe. Puis là, il arrive. Puis après, il faut qu'il reparte le dimanche matin pour arriver à Ottawa pour être là le lundi. Tu sais, je suis comme, il faudrait réformer ça. On parle de rendre les milieux de travail un peu plus, tu sais, family, tu sais, comme, family friendly, la conciliation travail-famille. Ouais. Ben, la Chambre des communes est le dernier endroit où ça se passe comme du monde. Il y a moyen de réformer ça. Puis c'est juste que, tu sais, je pense que les partis souvent hésitent parce que la perception dans la population, ça peut être, ils s'enlèvent du travail. Tu t'en rajoutes en circonscription. Puis en même temps, personne veut d'un député qui est un mauvais père. Personne veut d'un député qui est un mauvais mari ou un mauvais conjoint ou qui est un mauvais ami ou un mauvais fils. Puis tu sais, cette job-là nous amène à l'être un peu des fois.
Mm. C'est intéressant. Puis la ville d'Ottawa, pour y vivre, c'est comment?
Ben, j'y vis pas vraiment. J'y travaille plus que j'y vis. J'ai pas développé de lien très fort avec cette ville-là. Mon quotidien là-bas se résume à un petit quadrilatère là, assez limité. Donc, j'ai pas encore... des fins de semaine à Ottawa, là, ça m'est pas arrivé souvent. Juste le souper de la Tribune de la Presse, des fois, où je me retrouve là un samedi. Mais
tout le monde dit que c'est bien plate comme ville. C'est si pire que ça.
Je pense pas. Je pense que n'importe quelle ville, si tu t'y investis, tu peux trouver quelque chose. Sûr. Mais moi, je m'y suis pas investi. C'est pas là que je veux bâtir des liens. C'est pas chez moi.
Comme vous disiez tout à l'heure avant de rentrer, faut boire là.
Ouais, mais c'est ça, c'est un danger à Ottawa, tu sais.
Pour vrai?
Clairement, je pense que c'est documenté là, que t'as des députés qui arrivent là-bas loin de leur famille, loin de leurs repères.
Qu'est-ce que tu fais dans ce
Qu'est-ce que tu fais le soir là, dans ta chambre d'hôtel tout seul? Plate. Ben, c'est plate là. Ouais. C'est que moi j'ai la chance d'avoir une coloc qui est une amie de longue date. Qui tu sais que ça c'est plus familial un peu quand même comme atmosphère.
Tu travailles en politique aussi?
Je travaille aussi en politique.
Ouais. Ah bon, ok. Fait que là, dans le fond, en plus les sujets.
C'est ça. Elle a toutes les codes de sécurité aussi que j'ai.
C'est quoi la sécurité? À quoi vous avez accès au plan sécurité?
Ça dépend toujours de ta fonction. C'est en fonction de
dans votre
fonction.
Cas?
Dans mon cas, comme secrétaire parlementaire...
Le mini-bar, mais je dirais autre ça.
honnêtement, je sais juste que j'ai passé certains background checks avec la GRC. Ils ont pris mes empreintes, ils ont fait des vérifications. Puis après, j'ai eu mon feu vert là, de sécurité pour avoir accès à des documents comme des mémos au cabinet ou ce genre de choses-là.
OK. Ouais, mais c'est pas des classifications top secret.
Dans le top secret, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le sont dans la classe politique. Mm. Certains députés qui siègent sur le comité, qui surveillent les agences de renseignement, le ministre, le premier ministre, puis conseil privé, mais autrement...
Vous n'avez pas accès encore au téléphone rouge direct avec Trump ou Poutine?
Non.
Mais d'après moi, même M. Trudeau, il y a de la misère à appeler M. Trump parce que les temps qui courent.
Il envoie des selfies.
Ouais.
Ça, c'est ça quoi, mieux par Twitter pour rejoindre le président, je pense. Ouais. Mes week-ends?
Ouais.
Ben, mes week-ends...
quand vous en avez. Là.
Quand j'en ai, ben, il y a beaucoup d'activités dans le comté toujours. Ça, c'est la partie aussi de la job que les gens, des fois, voient un peu moins. Mais beaucoup, tu sais, on s'attend à ce que le député vienne représenter le gouvernement puis soit présent. Donc moi, ça me... C'est ça. Il y a beaucoup de ça. Des concerts, des activités comme là, les fêtes de la Saint-Jean, les barbecues. Donc c'est,
mais à quelle activité vous pouvez dire « malheureusement, je peux pas y aller » puis à laquelle faut dire oui? Parce que à un moment donné, là...
Non, mais c'est une bonne question parce que...
Sérieux, les soupers spaghetti, on en revient, là. Puis je veux dire oui à tout, ça n'a juste pas de sens.
Mais non, c'est sûr, c'est impossible. Je pense qu'il y a une tentation, des fois, dans la première année, de dire oui à tout, justement. Ouais. Puis après, tu te rends compte que... T'as dit oui à tout, mais t'as dit non à bien d'autres choses dans ta vie. Donc, il faut que tu trouves un juste milieu comme député. Mais c'est sûr que tu veux pas te faire reprocher d'avoir été vu juste à la veille des élections. Ça, tu veux être présent. Puis en même temps, c'est utile d'avoir un contact direct avec le monde qui puisse, d'avoir les échos. Donc, quand t'es à Ottawa la semaine, la fin de semaine, moi, ce que j'essaie de faire dans les dernières années, c'est de condenser le plus possible le samedi, le dimanche si nécessaire, mais d'avoir le plus possible le dimanche off pour vivre dans ma vie personnelle plus. Puis sinon, ben, ce que je fais quand j'ai ces journées off-là ou quand j'ai une fin de semaine off, moi, c'est vraiment d'aller dans les bois qui me...
Ah bon?
Ouais, j'aime ça, la forêt en Mauricie.
En Mauricie?
J'ai une petite cabane avec quatre de mes grands chums. Donc, on est cinq propriétaires. On se partage ça. On est toujours content de se voir là-bas. Ça n'est pas...
C'est quoi? C'est dans quelle ville, précisément?
C'est dans le coin de Shawinigan, là, okay. Pas trop loin.
Parce que moi, ma famille vient du Lac-aux-Sables. Ma mère vient du Lac-aux-Sables. C'est en Mauricie, là. C'est Saint-Tite, là, le festival.
Oui, ben oui,
tu t'en retournes vers Québec, dans le fond.
Oui.
Puis le tarif. Moi, j'ai toujours été très familier avec... mais je ne suis pas familier de l'autre côté de la 55.
Oui, OK, ben c'est
du côté Saint-Boniface, là, je pense.
Oui,
exactement.
Ouais,
moi, c'est pas...
C'est plus dans ce bout-là.
OK, je comprends.
Mais c'est un coin que j'ai découvert, mais que j'adore.
Pas de lien de famille, là.
Pas de lien de famille, non. C'est vraiment parce que ça fait depuis qu'on a peut-être 15 ans qu'on se dit ça serait donc mais le fun de s'acheter un chalet ensemble. Puis à chaque fois qu'on a essayé par le passé, personne n'avait les moyens de le faire, ça marchait pas. Mmh. Il y en a, il y a des artistes là-dedans. C'est pas toujours. Donc les moyens financiers étaient jamais bien agencés.
Là, yes, député. Joël est député.
Millionnaire.
Non. Tout le monde était dans une situation où là, c'était possible de faire.
Là, vous avez fait la phase de quelqu'un qui a un ami qui fait vraiment plus d'argent que vous. Joël est député, mais lui, il est actuaire. Fait que c'est correct.
Ouais, moi, ça a été... je rentrerai pas dans mes finances. Ça a toujours été un peu en dents de scie. C'est comme quand j'ai quitté ma job pour me lancer en politique, moi, j'étais chez Fasquet de Martin à Montréal, dans un grand bureau. Je gagnais bien ma vie à cet âge-là. Puis ça a été une grosse baisse de salaire pour venir dans une aventure. Les associés au bureau me disaient « Joël, t'es soit fou ou audacieux. » Peut-être un mix des deux, mais il y en a plein qui s'étaient... Qu'est-ce que tu fais à partir? Genre, il y a du monde qui se battrait pour avoir ta job. T'sais, tu t'es battu pour l'avoir, passer la course au stage, tout ça. Pourquoi tu quittes maintenant? Puis, ça a été un sacrifice à ce niveau-là, d'un point de vue financier. Ça a été en dents de scie.
En fonction de toutes les contraintes dont vous venez de parler, c'est quoi la durée de vie d'un député?
La durée de vie...
Comment ça, on peut rester député puis continuer à être efficace, à garder un équilibre familial, puis avoir du fun à faire ce que vous faites?
Je sais pas, c'est une bonne question, mais pour ma part, je me dis tant et aussi longtemps que je pense que... Tu sais, j'espère ne pas faire ça toute ma vie, à bien des égards. Tu sais, c'est pas toi qui décides, c'est les électeurs, mais je trouve ça un peu... Il y a d'autres choses à la vie que la politique. Elle est importante, il y a du bon à faire, il y a du bien, tu sais, puis je me sens très utile en politique. Tant que tu te sens utile, je pense, en politique, c'est ça qui devrait guider tes actions. Mais, tu sais, faire 20 ans en politique, ça use. Puis je veux dire, on a eu, si je me trompe pas, 5 députés qui sont morts dans les 4 dernières années sur un bassin de 338. Puis c'est pas tous ils sont pas tous très, très vieux, là. Puis tu te dis, il me semble que c'est beaucoup pour une cohorte de cette taille-là, tu sais, 5 mortalités. Mm. Puis le dernier jour, d'ailleurs, où le Parlement siégeait, on a annulé la période des questions. Puis tu sais, tout le monde se regardait un petit peu en se disant, ouais, tu sais, ça use.
C'est qui l'autre, là?
C'est d'une certaine manière. Mais comme c'est pas une fatalité, mais je pense que pour moi, je vois qu'il y a beaucoup de bien, de beau et de bon à être fait en politique. Je l'ai vu dans les. Puis beaucoup de frustration aussi, mais je l'ai vu dans les 4 dernières années. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est que c'est sûr que tant que je crois pouvoir avoir un impact positif, je vais continuer.
On est avec Joël Lightbound dans le trafic, député fédéral dans Louis-Hébert pour le Parti libéral du Canada Restez avec nous, on continue après la pause. On est dans le trafic jusqu'à 6 heures avec Joël Lightbound, député fédéral dans Louis-Hébert pour le Parti libéral du Canada. Joël, est-ce que les partis magasinent les députés ou les députés magasinent les partis? À titre personnel, là, dans le sens que... Si, mettons, tes convictions sont pas d'ordre conservatrice, mettons, la question se pose pas, mais à partir du moment où il y a une connexion, c'est quoi, c'est où qu'il y a un facteur personnel qui entre en ligne de jeu? Tu vois ce que je veux dire?
Je pense que c'est un petit peu un mix des deux, mais d'un mon point de vue, je me suis toujours considéré comme étant quelqu'un qui est un idéaliste, mais un pragmatique. Puis pour moi, le Parti libéral, c'était ça. J'ai pas une carte du Parti libéral depuis toujours. Moi, ça a été, j'ai quand même pris mon temps avant de décider là où j'allais m'engager et comment j'allais le faire.
Illustre-moi quand tu dis prendre mon temps.
Mes valeurs sont proches, sont très progressistes. Moi, je me suis embarqué en politique puis j'ai voulu faire la politique toute ma vie. Puis c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui pour réduire les inégalités, pour essayer. Puis ça vient un petit peu de mon historique familial. Quand j'étais plus jeune avec ma mère, mon frère, disons que c'était justement ma situation financière en dents de scie, là, était dans le bas à ce moment-là. On était très précaires. Puis j'ai vu c'est quoi le stress financier. Puis pour moi, c'était quel parti a le potentiel d'en faire le plus pour réduire les inégalités. Et c'est de là que ça a parti, vraiment. T'sais. Puis je pense que c'est même, si on n'est pas en psychanalyse, mais si je l'étais, je suis pas sûr que ça vient un peu de là, le désir de lutter contre les injustices ou ce que je perçois être comme des injustices. Puis dans un cerveau d'enfant, quand tu vois, mettons, ta mère se stresser pour payer son loyer, quand tu vois emprunter de l'argent aux parents de tes amis pour boucler la fin de mois, tu le vis un peu comme une injustice. Puis moi, je le sentais comme ça. C'est le Parti libéral qui, à mon sens, surtout sous M. Trudeau, qui l'a amené beaucoup plus progressiste, je dirais, c'est là que je me rejoignais le plus.
Puis qui appelle qui dans ce temps-là? Comment ça marche?
Dans ce temps-là, dans mon cas, t'as pas le choix j'ai pas le choix de m'imposer. Le parti avait à l'époque des investitures, puis il y a toujours des investitures ouvertes. Ça veut dire que qui que ce soit est capable de mobiliser assez de gens derrière sa candidature et capable de gagner l'investiture, devenir le candidat du parti. Dans mon cas, ça a commencé justement, on en parlait pendant la pause, avec mon bras droit, Philippe, qui est un ami de longue date que je suis allé voir. On était à la Casa Grecque Sainte-Foy. On mangeait une brochette de souvlaki.
Toujours les endroits pour millionnaires.
Toujours des endroits, oui, c'est ça. C'est là qu'on vient, là, tu sais, assez grassroots, notre affaire. Puis je lui ai expliqué que je voulais me lancer, puis on est partis les deux ensemble. Puis à nous, se sont greffés.
Il faisait quoi, lui?
Il était gérant de la Casa Grecque à Sainte-Foy.
Pour vrai?
Et il a des études en sciences politiques, mais il y a eu des restos aussi pendant un bout de temps. Mais c'est un ami que je connaissais au-delà de cet emploi-là.
Mais pourquoi tu as pensé à lui? Pourquoi tu as pensé à un gars qui était rendu?
Parce qu'on vient du même milieu. Lui, c'est un réfugié bosniaque qui est arrivé ici avec pas grand-chose, puis avec sa mère dont il s'est occupé depuis qu'il est ici, depuis longtemps. Puis je pense qu'on... Ça a toujours été clair que notre ambition politique était bien liée au point de vue des idées. Après, le comment, mais on ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Le Parti libéral, pour moi, ça a été ça. Là. Ça a été le choix de me dire, tu peux critiquer M. Harper, tu peux critiquer les conservateurs qui, pendant 10 ans, là, je ne veux pas rentrer trop dans la partenariat, mais je voyais comme quelqu'un qui s'intéresse à la question, je voyais des allègements fiscaux systématiquement donnés aux plus nantis. Le filet social qui était en train d'être démantelé là, pendant une décennie. Et c'est ça qui m'a motivé à me lancer en politique. Mes valeurs rejoignent quand même celles du NPD. Mais le Parti libéral, pour moi, c'était plus pragmatique. C'était plus sérieux comme approche, plus crédible aussi.
Est-ce qu'on évalue les chances de gagner, d'être au pouvoir? Parce que le NPD peut être tentant, peut-être.
Un peu dans le sens où, pour moi, scander de grands idéaux dans l'opposition... c'est louable. Le travail que font les députés d'opposition est très louable. Mais je voulais avoir un impact et je préférais avoir un impact de l'intérieur que de l'extérieur. Quand j'ai décidé de me lancer, on était troisième dans les sondages, puis on était loin de gagner. Mais c'était le parti pour moi qui avait le plus de potentiel de gouverner dans le sens où je voulais amener le pays où j'aurais souhaité qu'on amène
le pays.
Mais
un député de l'opposition peut quand même avoir de l'impact, mais plus terre à terre dans son comté avec ses électeurs.
Définitivement, peut avoir de l'impact sur le gouvernement. Moi, je pense qu'on devrait jamais se priver d'une bonne idée, peu importe d'où elle vient. Puis des fois, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas toujours d'accord avec le gouvernement. J'ai voté une dizaine de fois à peu près contre le gouvernement dans les 4 dernières années. et ça m'arrive d'avoir des positions qui divergent de celles du parti, mais je me suis toujours dit, même si des fois, tu sais, en politique, tu fais des compromis, l'idée, c'est de jamais se compromettre malgré les compromis que tu étais appelé à faire. Je me suis toujours dit, je préfère être de l'intérieur et pouvoir plaider pour des mesures plus progressistes qui vont aider le monde puis qui vont avoir un impact réel. Puis de citer puis un exemple, pour moi, l'environnement est super important. Comme député à l'intérieur du gouvernement libéral, j'ai parvenu avec l'aide de collègues, mais à convaincre le gouvernement que tous les profits, tous les revenus engendrés par Trans Mountain soient investis dans la transition écologique, un peu comme le fait la Norvège. Ben ça, c'est un accomplissement. C'est que je me dis, c'est une chance que tu as d'être au gouvernement et de pouvoir pousser ce genre d'idée-là.
Quand est-ce que tu es obligé dans ta vie en général à faire des choses que tu préférais ne pas faire?
J'ai de la misère à...
Est-ce qu'il y a des fois, dans des circonstances personnelles ou professionnelles, où tu sens que tu es obligé de faire une action puis que tu préférais de pas faire? Ou en d'autres mots, est-ce que tu te sens souvent obligé à, alors que dans réalité, tu prendrais une autre option?
La ligne de parti.
Non, pas du tout. Okay. Non, même dans sa vie personnelle. Okay.
J'ai l'impression...
Parce que, non, je vais dire pourquoi je te pose la question, c'est que manifestement, vous avez un parcours où est-ce que tout à coup, ça monte, tout à coup, ça peut descendre, suivant l'idéal du moment. Mais pas en voulant dire que vos idéaux bougent, mais en voulant dire que si vous voulez accomplir un projet, vous y allez. Est-ce que je me trompe?
Ça, oui. Non,
bon.
Oui.
Ça fait qu'est-ce que des fois, vous vous sentez obligé de faire quelque chose que votre réflexe, ce serait de pas le faire, mais que ça vaut la peine pour pouvoir continuer à aller dans une direction?
Non, pas vraiment. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas d'être coincé. Puis justement, je pense que j'ai pris la décision assez tôt dans ma carrière. Justement, quand t'arrives à Ottawa, t'es intimidé par toute cette machine-là, mais d'assumer ma souveraineté en tant que député. Tout en respectant mes collègues puis le travail d'équipe que tu fais dans un parti. Mais par exemple, en 2016, si je me trompe pas, ou 2017, il y avait une marche des travailleurs de la Davie sur la rive sud. Puis on me disait, des conseillers, puis des, tu sais, ben c'est peut-être mieux de pas y aller, tu représentes le gouvernement. Moi, c'était clair que je voulais être là avec les travailleurs, même si je savais que l'accueil allait pas être le meilleur sur le coup, parce qu'on avait encore nos preuves à faire vis-à-vis des travailleurs. Mais j'étais tellement d'accord avec eux par rapport à leurs demandes, par rapport à l'injustice qu'ils ont vécue en 2011 quand la dévie a été exclue, que pour moi, ça avait juste du sens d'être là, puis de marcher, puis de parler avec les travailleurs. Mais c'est sûr que, c'est ça, en dépit des conseils de certains, disons, qui sont... à d'autres niveaux.
Oui, oui. Comment vous réagissez aux critiques en général? Tu sais, les critiques de médias sociaux, être politicien par définition, c'est même pas important de savoir pour quel parti ni quel comté, mais comment vous réagissez à, parce que ça aussi, ça a dû être nouveau là, de voir que tout à coup, le moindre mot, il y en a tout le temps qui font c'est fantastique, d'autres qui disent que c'est extrêmement zéro.
Ben c'est au début, je pense, c'est une adaptation. Tu le vis, souci là, de chaque commentaire qui peut être dit sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Tout ça. Après un certain temps, je pense que en tout cas dans mon cas, t'en viens à accepter que si t'essayes de plaire à tout le monde, si t'essayes d'être tout pour tout le monde, tu finis par être rien pour personne et que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, faut que t'acceptes ça. Puis je veux dire, c'est ça, il y a des gens, mais maintenant j'accepte. Là. J'accepte beaucoup mieux. C'est comme ça fait partie de la job.
Mais ça a été difficile au début?
Ben, au début, c'est sûr que tu es un petit peu plus attentif à tout ce qui se dit, puis plus affecté. Après un certain temps, tu fais, c'est normal. T'sais, par exemple, c'est normal, M. Duhaime parle un petit peu contre les libéraux.
Pis, t'sais,
c'est que je le sais à quoi m'attendre.
Bon libéral!
Un libéral, c'est ça. Au début, j'étais un petit peu plus réactif. Maintenant, je suis genre, mais je sais que peu importe ce qu'on fait là, de bon, il le verra pas. C'est comme ça, c'est correct.
Et ça m'amène à revenir sur quelque chose que vous avez dit tantôt. Ça vous est arrivé de voter contre une proposition de votre gouvernement?
Ouais.
Comment se faire regarder par après?
Ben, c'est une des raisons aussi, quand tu me demandais, Marc, pourquoi le Parti libéral, une des raisons, c'est entre autres parce que M. Trudeau, à l'époque, quand il est devenu chef, puis ça tient toujours, avait dit, on va assouplir la ligne de parti. C'est avec tout ce qui n'est pas d'incidence budgétaire, donc des votes de confiance qui pourraient faire tomber le gouvernement, ou tout ce qui n'est pas quelque chose qui était dans la plateforme électorale, donc qui est clair qu'on s'est fait élire sur cet engagement-là, vous pouvez voter selon votre conscience. Dites-le au whip, c'est tout. Donc, comment on se fait regarder? C'est sûr que des fois, tu sens que le whip te aime
le whip,
ça,
c'est un peu votre boss, c'est le entre guillemets.
Discipline.
Hein, ouais, c'est ça.
Ouais. Mais notre boss, je dirais que c'est le monde qui nous ont élus. Mais,
non, mais le boss de la gouvernance.
Mais mettons, oui, sur le, au quotidien, là, c'est lui qui s'assure que tout le monde est là pour voter. Mais ça a pas, ça m'a pas empêché d'avoir des promotions. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui m'a motivé à me présenter avec M. Trudeau, à assouplir la ligne de parti. Pour moi, ça pourrait l'être peut-être encore. On pourrait peut-être... Le système fait en sorte que dès qu'il y a de la dissension, puis les médias aussi, dès qu'il y a de la dissension dans un parti, ça devient l'histoire. Mmh. Ça devrait pas être ça. Je pense qu'on devrait permettre aux députés d'exprimer des opinions un peu divergentes, puis d'avoir des débats d'idées plutôt que de faire des histoires sur tel ministre contredit tel autre ministre ou tel député contredit son parti.
Ça doit vous faire suer que M. Trudeau n'ait pas respecté sa promesse de réformer le mode de scrutin?
Ben,
Excuse, j'avais dit qu'on parlait pas de politique.
Ouais, non, mais je suis à l'aise d'en parler. Mais vous voyez, la réforme du mode de scrutin, c'est moi, je l'ai dit sur trop de tribunes, dont celle-ci à plusieurs reprises avec Luc Lavoie et Myriam Segal. C'est quelque chose auquel je crois et j'aurais souhaité que ça se fasse. Mais ça fait partie des compromis pour moi où quand je regarde l'ensemble de l'action, puis entre autres, je parlais de la pauvreté. Là, dans les trois dernières années, au Canada, on a réduit la pauvreté de 20% selon Statistique Canada. Chez les enfants, de 40%. T'sais, pour moi, ma mère, mon frère, quand j'étais plus jeune, ça aurait été 1036 dans nos poches non imposables par mois.
Ça, c'est la réussite.
C'est immense.
Le mode de scrutin, la réforme du mode de scrutin, ben, c'est l'échec.
Ben, c'est une déception, mais moi, je me dis, en tant que politicien, c'est quelque chose pourquoi je vais continuer de militer, auquel je crois. Puis mon idéal, là, réforme du mode de scrutin, je sais pas si ça intéresse beaucoup les auditeurs, mais ça serait d'avoir un Sénat qui est proportionnel, garder la Chambre des communes telle qu'elle. Comme ça, pour chaque projet de loi, tu aurais besoin d'avoir l'approbation. Bon, ben, c'est ça. Là, c'est le geek en moi qui sort, le geek politique. Là.
C'est quoi le compromis numéro un quand on devient député dans notre vie personnelle?
Compromis numéro un, je
il n'est pas obligé d'être gros, mais qui est celui en haut de la liste.
Un des changements majeurs, en tout cas, que j'ai trouvé, c'est de devenir public et fait un peu du jour au lendemain, puis...
C'est vrai, pareil, hein?
Oui, quand même, tu sais...
Les faces et panneaux, bing-bang, puis t'as coup pouf le lendemain dans le journal, puis...
Oui, c'est ça, ouais. C'est sûr
c'est que quoi le, pas, c'est quoi l'élément perturbant dans ça?
Ben, c'est que tu restes humain quand t'es en politique, là. T'as beau être député, moi, par exemple, j'étais un fan de hip-hop, là. J'aime ça aller à des shows je l'ai été depuis le secondaire, c'est sûr, des fois, puis d'impro. C'est que des fois, je m'en vais à un show, puis, tu sais... Il y a du monde qui se tourne, ils sont comme, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'y a pas d'affaires ici. Je suis comme, mais pourquoi j'ai pas d'affaires ici?
Ok, ça fait que il y a comme un regard de beaucoup de monde sur le c'est correct ou pas correct d'être à tel endroit ou autre.
Exact.
C'est quoi les shows de hip-hop que vous avez vus
récemment? J'aime bien À la Claire Ensemble. Je suis allé voir
Loud. J'ai déjà vu de loin dans un show d'À la Claire Ensemble.
Mais il n'était pas à l'After Fest, là, À la Claire Ensemble?
Oui, il était.
Il était au FEC, en fait, sur la scène principale. Parce qu'il a remplacé Lil Pump.
OK.
Aussi connu, en tout cas, parce qu'ils ont fait une joke en disant... Lil Pump, on va l'appeler Petite Pompe. C'est son nom en français. Donc, la foule criait Petite Pompe, ce qui est comme absurde. Mais j'étais pas à ce spectacle-là, malheureusement.
Puis sinon, c'est quoi votre top 3 d'artistes hip-hop?
J'irais Notorious B.I.G., Wu-Tang, et ça dans le rap plus américain. Sinon, mais c'est Six Lack, j'aime beaucoup, mais je pense que je vais perdre bien du monde avec c'est des artistes un peu moins connus, mais dans le rap québécois, c'est clair, À la Claire, Loud, Ken Lo, Sans Pression, qui est un des premiers artistes qui m'a amené sur la
voie. Et pourquoi cette musique-là plus qu'un autre? C'est quand même, on n'associe pas, à tort, je suis entièrement d'accord, un député avec de la musique hip-hop. T'sais, habituellement, on aurait pensé...
Mais ça, c'est juste parce qu'on n'a aucune idée de la musique.
Mais je suis absolument d'accord, mais je trouve ça intéressant de l'entendre.
C'est aussi que je suis un des jeunes députés. Ouais. C'est une nouvelle génération. Donc, moi, j'ai été élevé à Rochebelle. On faisait des petites battles de hip-hop. J'avais des amis qui rappaient. Puis d'ailleurs, un qui est un rappeur dans La Claire, Ogden, qui est mon ami depuis que j'ai 12 ans, là, un de mes meilleurs amis. Donc... J'ai évolué un peu dans ce... Okay. J'ai baigné, disons, là-dedans.
Fait que c'est pas avec Pablo Rodriguez que maintenant... Yo, bitch!
Ça, je m'inscris en faux, là.
Ah ouais?
Avec ses propos. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, si on devait censurer avec un œil politique ce qui se dit dans les tracks de hip-hop, dans les chansons de rap, là, il ne resterait plus grand-chose, des fois. Mais ouais.
C'est qui votre meilleur ami au Parlement?
Je veux pas faire de... Mais
de jaloux.
Je m'entends super bien avec Jean-Yves Duclos. C'est quelqu'un que je respecte énormément. puis j'aurais pas pu souhaiter meilleur collègue. Là, on s'entend vraiment bien, puis on se complète bien. Mais celui avec qui j'ai développé le plus de liens, c'est Rémi Massé, qui est le député de Matane, l'Avignon, Métis, Matapédia.
Okay.
Puis on n'est pas de la même génération, vraiment, mais...
C'est un gars de quel âge?
Je sais pas, à peu près 50, je dirais.
OK.
Ouais, dans ces eaux-là, mais super gentil, puis on s'entend vraiment bien.
Fait que ça, c'est quelqu'un que vous pouvez voir en dehors des heures.
Ouais, il y en a plusieurs que je verrai en dehors.
Non, mais je parle... Coup de téléphone, salut.
Ouais, oui, de temps en temps, sans doute, mais il y en a d'autres. Là. C'est juste que c'est avec lui que j'ai développé le plus de liens.
OK. Puis là, le prochain voyage, c'est quoi?
Prochain voyage.
Ben, pour le fun, là, un voyage.
Moi, mes vacances.
Ouais.
M'en vais sur la côte nord, à Natashquan, à 2 semaines. C'est,
c'est tranquille, ça.
Ouais, c'est tranquille.
En effet, paysan. Hey, je pense que c'est bon. Je pense que c'est
ça,
la bonne façon.
Ben, ça, c'est un diplomate.
Ça va quand même vous rappeler un peu Ottawa.
Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Sans le réseau cellulaire. Ouais. Puis, moi, c'est. Il n'y a pas grand chose. Honnêtement, le camping où je vais. Là,
en camping?
Ouais, en camping.
Avec une tente, puis tout, là?
Avec.
C'est ça, le camping, Julie.
Non, ça peut être avec une roue.
Non, mais j'avais l'an dernier, j'étais allé en fait pour la première fois sur la côte nord, à Natashquan, avec une tente puis toute, avec ma blonde. Puis j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, c'est sûr, j'y retourne. C'est un coin justement qui est méconnu. Tu sais, les gens vont beaucoup en Gaspésie, dans le Maine, puis j'y suis allé aussi par le passé au Nouveau-Brunswick. Mais la côte nord là, c'est merveilleux, les paysages sans couper le souffle. Et en effet, il y a pas grand monde. Calme plat, il y a rien.
Joël, c'est à quelle période de l'année que vous allez là?
Vacances à construction.
Ah, comme là?
Je pars la semaine prochaine.
Ah oui, OK. Ouais. Puis il va faire. C'est quoi la température sur la côte nord en ce moment-là?
Ben, l'an dernier,
moins
quand.
4,
je...
moins 5.
Ouais, c'est ça. L'an dernier, pas besoin d'amener. Tu t'économises sur la crème solaire.
Oui.
Mais non, pour de vrai, l'an dernier, je suis allé, puis il a fait vraiment un beau. C'était assez chaud pour se baigner. Puis il y a un endroit où tu peux te baigner dans la rivière, dans l'eau douce. De l'autre côté, tu te baignes dans l'eau salée. C'est plus chaud dans la rivière, plus frais dans l'océan. C'est...
Tu peux pêcher.
C'est un trip plein air.
Ouais, c'est un trip plein air tranquille, lire. Et j'aime le camping parce que t'es dehors tout le temps. Puis on dirait que t'sais, on vit nos vies à l'intérieur. Et des fois, quand je suis en camping, je me dis, c'est comme si tu reconnectes avec ce que des générations d'humains avant toi ont toujours vécu. C'est-à-dire, ils étaient dehors à se faire des feux pour préparer. Tout était long, tout prenait du temps. Mais tu sais, en camping, tu le vis, ça. Donc, tu sais, c'est comme ça ralentit tout.
Puis après ça, t'es content de retrouver ton confort.
Ouais, quand même, ça te fait apprécier.
Après, tu couches dans un lit chaud avec un poêle puis des poêles anti-adhésives. T'es comme, yes!
C'est clair.
Ouais, vous habitez dans quel coin à Québec?
Ouais, j'habite à Sillery.
Oh, à Sillery.
Ouais.
Depuis longtemps?
Non, depuis à peu
depuis
près...
Depuis le retour de Montréal, genre?
Ouais, j'ai habité à Sainte-Foy, dans le coin de Sainte-Geneviève, puis à Sainte-Ursule avant ça. Puis là, je suis dans le coin du quartier Saint-Michel, là, dans un petit appart.
Les trois restos préférés?
La galette libanaise.
C'est rue Saint-Jean? Oui, il y en a plusieurs.
Ils sont toutes bonnes, pour de vrai.
C'est vrai, c'est super bon.
Sinon, je suis vraiment pas un. Je suis pas un foodie. Pizza Mag, j'aime bien Pizza Mag, la meilleure pizza. Je suis tellement. J'aime bien la Casa Grecque, chez Gréco. Je sais vraiment pas, mes goûts sont pas très.
Au coin, Maguire, puis chemin Saint-Louis, là, c'est quoi dans le resto? Là,
le Montego.
Ouais, ça, c'est génial.
Ouais, c'est,
non, ça n'a rien à voir avec la Casa Grecque. C'est quoi ton.
Non, mais on parle de resto qu'on
va manger. Non,
parce que je parle dans son coin à Sillery.
Mais j'aurais dû dire du lutte, peut-être. Mais Montego,
non, mais c'est sûr que j'ai compris que c'est un Red pauvre qui fait du camping, là, c'est sûr.
Mais le Montego, je suis allé une fois, c'est super bon, le Montego, sans aucun doute. Mais c'est moins dans mes habitudes, mais c'est pas trop dans mes habitudes d'aller dans des restos. C'est pour ça que cette question-là, je suis comme... J'aime... Ouais, c'est ça, c'est pas mon truc, tant que ça, les restos.
Pain brun ou pain blanc?
Attends, Marc. Breuvage favori?
Oui, breuvage favori. On l'a pas demandé, c'est vrai.
Breuvage, le vin rouge.
Ah oui?
Ouais.
Vin rouge.
Le Coteau des Images, c'est mon préféré.
Oh, très député, ça. Ouais. Très député. Ouais. Bon petit verre de vin rouge.
Ouais,
Joël Lightbound, merci beaucoup, député fédéral dans Louis Hébert pour le Parti libéral du Canada. C'était très intéressant de vous recevoir. J'espère que ça vous a plu. On en a su qu'on savait pas.
Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
À bientôt. Salut bien. Sur ce, ouais, ben
ouais,
oui.
Comme,
ah, voulez-vous un mot de la fin, Alex?
Ah ouais,
non, sérieux, je vais te parler, ouvre ton micro.
Non, j'ai pas de mot de la fin.
Non, c'est moi qui ai un mot de la fin.
OK, ah, c'est quoi?
Je voulais te demander qu'est-ce que tu allais manger ce soir. Est-ce que tu manges du Costco?
Je sais pas, c'est une bonne question.
Ou un bon...
Il mange du Costco.
King Bacon.
Non, je sais pas. J'ai aucune idée.
Hey, à demain tout le monde, c'était super le fun. Et puis merci Vez, Paul,
yes.
Julie, merci Joël de ta visite, merci. Ainsi que les sbires avec qui t'es venu.